Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Messe solennelle ce dimanche en la basilique Saint-Pierre de Rome pour l'ordination épiscopale de quatre nouveaux évêques, parmi eux le secrétaire particulier de Benoît XVI, Mgr Genswein, et Mgr Thévenin, un Français qui devient nonce au Guatemala. Dans son homélie, le pape a encouragé les pasteurs de l'Église à contredire avec courage les orientations dominantes de la société. Nous parlerons aussi dans ce magazine du Noël orthodoxe en Égypte, avant de retrouver Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche, un dominicain, le frère Augustin Lafaille. Benoît XVI, qui impose les mains sur la tête de Mgr Georg Genswein, agenouillé devant lui, c'est l'image que tout le monde gardera en mémoire de ce dimanche de l'Épiphanie. Le pape, en la basilique Saint-Pierre, a ordonné évêque son secrétaire particulier, nommé aussi préfet de la maison pontificale. Trois autres prélats ont reçu l'ordination épiscopale, le Nigérian Mgr Fortunatus Wanchoku, qui devient nonce au Nicaragua, le Français Mgr Nicolas Thévenin, qui devient nonce au Guatemala, et Mgr Vincenzo Zani, récemment nommé secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. Le pape, dans son homélie, a voulu parler des qualités que devraient avoir les évêques, des hommes inquiets qui doivent se préoccuper des autres hommes et être capables de leur indiquer la route vers la foi et le juste chemin de la vie, des hommes courageux, valeureux, que le Seigneur envoie comme des agneaux au milieu des loups. Justine Vassogne.
Benoît XVI, dans son homélie, a tracé un parallèle entre le rôle des évêques et les figures de Mages d'Orient dont le chemin vers Bethléem était fêté en ce dimanche de l'Épiphanie. Les quatre évêques ordonnés en ce jour, a souligné le pape, collaboreront au ministère du pape pour l'unité de l'unique Église de Jésus-Christ dans la pluralité des églises particulières. Et le lien entre cette ordination épiscopale et le thème du pèlerinage des peuples vers Jésus-Christ est évident parce que l'évêque a le devoir non seulement de participer à ce pèlerinage avec les autres, mais de le précéder et d'en indiquer la route. C'est comme pour les mages qui alors partirent vers l'inconnu, hommes au cœur inquiet et poussés par la recherche inquiète de Dieu et du salut du monde. Aujourd'hui, l'inquiétude de l'homme vers Dieu et l'inquiétude de Dieu vers l'homme ne peuvent laisser de répit aux évêques. En d'autres mots, pour le pape, un évêque doit être un homme qui a à cœur les autres hommes, qui est touché par leur quotidien et leurs soucis. Benoît XVI a aussi souligné combien l'humilité de la foi aujourd'hui se trouvera continuellement en conflit avec la pensée dominante de ceux qui font confiance à ce qui apparemment est sûr. Celui qui vit et annonce la foi de l'Église, a averti le pape, en de nombreux points n'est pas conforme aux opinions dominantes de notre époque. L'agnosticisme aujourd'hui tout puissant, à ses dogmes et se relève extrêmement intolérant à l'égard de tout ce qui le met en question et conteste ses critères. Pour cela, le courage de contredire les orientations dominantes est aujourd'hui particulièrement urgent et nécessaire pour un évêque. Cela nécessite du courage et cette force n'a pas à frapper avec violence ou agressivité, mais doit se laisser frapper et doit tenir tête aux critères des opinions dominantes. Le courage de rester fermement avec la vérité, a conclu le pape, est évidemment une nécessité pour ceux que le Seigneur envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les successeurs des apôtres doivent s'attendre à être continuellement l'objet de coups, de manière moderne, en ne cessant d'annoncer de façon audible et compréhensible l'évangile de Jésus-Christ. En somme, a ajouté le pape, l'approbation des opinions dominantes n'est pas le critère auquel nous nous soumettons.
Et Benoît XVI, après cette longue messe d'ordination à la basilique Saint-Pierre, avait pris du retard pour l'Angélus. C'est ainsi que le pape s'est excusé auprès des milliers de pèlerins présents dimanche midi sur la place Saint-Pierre par une belle journée ensoleillée. La messe a duré un peu plus longtemps que prévu, a déclaré le pape, s'excusant donc pour le léger retard et parlant alors de l'épiphanie. Les mages venus d'Orient représentent les peuples, les civilisations, les cultures, les religions qui sont pour ainsi dire en chemin vers Dieu, à la recherche de son règne de paix, de justice, de vérité et de liberté. En cette solennité de l'épiphanie du Seigneur, à l'exemple des mages d'Orient, j'invite chacun à chercher Dieu avec simplicité d'esprit, sans succomber face au découragement et à la critique, a affirmé le pape. Dieu a encore assuré Benoît XVI, n'a de cesse de frapper à la porte de notre cœur et rencontrer Dieu est ce qui peut arriver de mieux à un homme. Et puis, c'est désormais la tradition, un cortège historique en habit d'époque a défilé sur l'avenue qui mène à Saint-Pierre. Il s'agissait de la 28e édition de ce cortège qui vise à conserver les traditions de l'Épiphanie. Les rois mages venaient cette année de la région d'Arezzo, 1500 figurants, dont de nombreux musiciens battant tambours et sonnant trompettes, ainsi que des lanceurs de drapeaux médiévaux. Une trentaine de chevaux, tout cela dans une débauche de musique et de couleurs. Le pape a tenu à les remercier pour leur présent. Trois calices en argent réalisés artisanalement par un orfèvre de la région. Adorabunt te Domine, omnes gentes terrae. Et puis au terme de l'Angélus, le pape a encore rappelé que lundi, les églises d'Orient qui suivent le calendrier julien célèbrent Noël. Il leur a adressé ses vœux de paix dans la joie de la foi commune. Et les Coptes orthodoxes d'Égypte célèbrent donc ce lundi ce premier Noël sous un pouvoir issu des frères musulmans dans un climat d'inquiétude face à la montée en puissance de l'islam politique en dépit des assurances des autorités. Une fatwa diffusée depuis plusieurs jours sur des sites internet par une association proche des salafistes, le Comité légitime pour les droits à la réforme dont fait partie le numéro 2 de la confrérie des frères musulmans, demande ainsi de ne pas adresser de vœux aux Coptes à l'occasion de leur fête. Et tout récemment, le journal indépendant Al-Watan a donné la parole à un responsable salafiste présenté comme le fondateur d'une commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. Ce fondamentaliste souhaite aller à la rencontre des Coptes devant leurs églises pour les encourager à se convertir à l'islam. Il réclame que les chrétiennes portent le foulard islamique. Depuis son élection en juin, le président Morsi a pourtant promis à plusieurs reprises de garantir les droits et l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion. Il a adressé ses félicitations au nouveau patriarche copte Tawadros II, intronisé en novembre, mais tous ces propos n'ont pas suffi à rassurer les Coptes qui représentent 6 à 10% des quelques 83 millions d'Égyptiens. Beaucoup d'entre eux parlent désormais de l'exil. Et retrouvons à présent sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche. L'invité de ce dimanche est un frère dominicain, actuellement archiviste de la province de Toulouse. Il s'agit du frère Augustin Lafaille. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en histoire sur une figure marquante pour lui, le père Augustin de Lestrange, et la réforme du monachisme sous la Révolution, il entre dans l'ordre des frères prêcheurs en 1994. Après avoir assumé plusieurs responsabilités chez les dominicains, il est aujourd'hui chargé par le maître de l'ordre de faire la promotion des dominicains dans le monde. Catherine Aubin l'interroge sur sa façon de concevoir cette mission, sur son parcours, ses rêves aussi. Il a publié aux éditions du Cerf, Don Augustin de Lestrange et l'avenir du monachisme. Il a participé à de nombreux colloques en histoire. C'est un entretien donc signé Catherine Aubin.
Frère Augustin Lafaye, vous êtes dominicain et le maître de l'ordre, le frère Bruno Cadoret, vous a donné une mission, celle de promouvoir l'histoire des dominicains, l'histoire de l'ordre, pour l'ordre dominicain, mais aussi à l'extérieur. En quoi ça consiste ?
Ça consiste tout d'abord à réaliser que l'ordre a 800 ans. Les dominicains ont 800 ans. Il y a 800 ans que Dominique de Caleruega, donc un jeune castillan, a eu cet appel à prêcher l'évangile à ceux qui étaient le moins aptes à le recevoir en son temps. Il y a 800 ans que cet appel a été reçu par des femmes, d'abord, un groupe de femmes donc dans le Midi toulousain, en France, à Prouille, près de Carcassonne. Il y a 800 ans qu'un groupe de jeunes gens se sont unis à lui pour commencer cette vie et que Dominique, entre 1215 et 1217, a réuni, en quelque sorte, ses femmes, ses frères, pour fonder un ordre dont la mission, la vocation serait la prédication de la parole dans le monde entier et la rectification aussi de l'erreur par la douceur, par la parole et non par le feu et le sang, comme on aurait eu tendance à le faire volontiers. Alors, cette histoire qui se déroule depuis 800 ans est riche. Il y a des pages lumineuses, qu'on songe à Saint-Martin de Porres, Saint-Rose de Lima, parmi les premiers saints du Nouveau Monde, hein, ces grandes figures de la charité et d'une espèce de vie mystique lumineuse en Amérique latine. Il y a des pages lumineuses aussi avec Saint-Thomas d'Aquin, le grand docteur dominicain, qui est encore un maître pour l'Église entière. Il y a des pages lumineuses plus près de nous, au XXe siècle, avec un père Lagrange, à qui on doit la Bible de Jérusalem, que beaucoup ont entre les mains. Donc il y a des pages lumineuses nombreuses, il y a aussi des pages difficiles. Alors il y a l'Inquisition, hein, qui nous colle à la peau, nous dominicains, comme un sparadrap dont on n'arrive pas à se détacher. Inquisition que Dominique n'a pas voulu sous la forme un peu terrifiante, hein, sous laquelle elle est connue. Inquisition qui est un phénomène extrêmement complexe, bien étudié aujourd'hui par les historiens. Inquisition à laquelle les dominicains ont été quand même pendant des siècles très, très liés. Donc vous voyez, il y a une histoire riche, complexe, qui à la fois porte aujourd'hui l'ordre. Quand on rentre dans l'ordre des prêcheurs pour être dominicain, bah, il y a tout ça, c'est notre héritage. Et puis, en même temps, qu'il faut assumer pour en faire quelque chose. Si vous voulez. L'histoire n'est pas quelque chose de mort. On a des gènes dans notre corps, au plan biologique. Bien, de la même manière, on a un peu des gènes, une histoire qui nous parcourt. Alors, c'est vrai pour tous les chrétiens, avec l'histoire de l'Église, on est solidaire, d'une certaine manière, des 2000 ans de christianisme, hein, qui sont derrière nous. Ça vit en nous, puisqu'on est des membres du corps mystique. Et en même temps, il faut en faire quelque chose, il faut en vivre. Ça nous fait vivre et il faut qu'on en témoigne et que ça...
Et le rendre présent.
Le rendre présent, et le communiquer à d'autres, oui.
Alors le communiquer comment ? Frère Augustin l'a fait, vous êtes justement chargé de cette mission. Alors comment vous allez vous y prendre ?
Une des premières choses que je voudrais faire, c'est la communiquer en prêchant, en faisant connaître la sainteté dominicaine. Parce qu'il me semble que la sainteté, si vous voulez, c'est la meilleure part, en sens que c'est ce qui est vraiment réussi en nous. Vous savez que nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est notre vocation, c'est pas un luxe réservé à quelques-uns. Et en regardant les saints, on voit ce que l'on devrait être. Et c'est encourageant, et il nous apporte une aide pour devenir comme eux. Alors, je veux faire connaître cette sainteté. Alors, pour ça, il y a tout un grand plan en ce moment pour notamment créer un site en plusieurs langues, puisque l'ordre est répandu sur tous les continents, qui permettra de connaître mieux chacun des 300, 350 saints, saintes, bienheureux, bienheureuses, dominicains, aujourd'hui reconnus par l'Église. Mon rêve, ce serait d'élargir ensuite cette connaissance à des figures de sainteté qui ne sont pas canonisées, peut-être pas canonisables, mais qui sont très nombreuses. Ce projet avait été un peu réalisé au XVIIe siècle. Une équipe de dominicains français avait réalisé une année dominicaine. Donc des milliers de notices de laïcs, de moniales, de frères et de sœurs qui leur semblaient avoir illustré particulièrement l'intuition de Saint Dominique et avoir été des véritables prêcheurs de la vérité. Et donc ça donne une image très variée, évidemment, parce que les situations sont très variées.
Alors Augustin Lafay, vous êtes dominicain et vous êtes aussi historien. Vous nous parlez de l'histoire de l'ordre et ce n'est pas pour rien parce que votre première formation est une formation d'historien.
Oui, exactement.
Comment un historien entre dans l'ordre dominicain ?
Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse claire à apporter. Après mon baccalauréat, j'ai fait des études d'histoire, tout en pensant déjà à la vie religieuse, mais sans trop savoir où le Seigneur m'appellerait et à quoi il m'appellerait. Et j'ai des études études d'histoire jusqu'à passer un doctorat, et en commençant à enseigner en lycée, ce qui a été une expérience décisive aussi pour moi, parce que ça m'obligeait, me permettait de communiquer à la fois des connaissances historiques, évidemment, et géographiques aux élèves que je devais enseigner, mais ça me permettait aussi de transmettre d'autres choses, d'avoir un rôle éducatif qui a été pour moi un peu un déclencheur dans le choix de ma vocation. Alors j'ai aussi enseigné à des étudiants après quelques années de lycée, et alors que je terminais ma thèse de doctorat, j'enseignais à des étudiants, et puis la question se posait de savoir ce que j'allais faire, et c'était l'heure de Dieu, je crois. Et donc à 29 ans, voyez, deux jours après ma soutenance de thèse, eh bien je suis parti pour le noviciat en demandant la miséricorde de Dieu, celle de Saint-Dominique et celle de mes frères.
Vous avez dit que votre enseignement auprès des lycéens était un des déclencheurs. En quoi ça a été déclencheur? Au niveau de la transmission?
Oui, parce que surtout dans cet âge qui va entre 15 et 19, 20 ans, disons l'âge du lycée en France, on sent bien qu'il y a toute une série de questions auxquelles il faut répondre et qui vont être déterminantes pour une vie. Alors je ne crois pas au déterminisme, donc nous ne sommes pas programmés comme des machines, il y a une véritable liberté, il n'y a pas de fatalisme, et en même temps, notre vie est bien orientée par quelques oui, quelques non qu'on dit à cet âge charnière. Et ça a été très important pour moi de réaliser que des questions se posaient évidemment au plan spirituel à cet âge, des questions se posaient aussi au plan intellectuel. Il y a des options qui sont prises qui vont porter, faciliter même une vie chrétienne ou au contraire la décourager, la rendre plus difficile. Mais je me sentais appelé un peu à aider parce que quand, si vous voulez, des jeunes viennent vous poser des questions, vous allez dire même un peu au-delà du cours, etc., vous vous demandez mais est-ce que c'est pas à ça finalement que je suis appelé, plus qu'à être professeur toute ma vie et uniquement professeur.
Ça fait partie des facteurs qui ont déclenché cette entrée chez les Dominicains deux jours après votre soutenance?
Oui, je crois que c'est comme ça que Dieu parle aussi, par les situations dans lesquelles nous sommes et par l'appel des personnes, tout simplement, autour de nous.
Alors depuis que vous êtes frère, donc ça fait presque 20 ans?
Oui.
Quels ont été depuis ces 20 ans les différents points, rencontres qui permettent aujourd'hui de dire « il me semble que... »
Alors, d'abord, le parcours est moins glorieux que je ne l'avais imaginé au début, et moins rectiligne. Ce que j'ai découvert, c'est l'obéissance. Quand on rentre, on se soumet à Dieu par l'intermédiaire de supérieurs. Et Dieu parle par ses supérieurs. J'ai découvert, et il faut un petit peu de temps, que la vie religieuse, c'est moins une carrière que l'on envisage qu'un chemin où il faut accepter d'être bousculé, déplacé, réorienté.
Votre travail de thèse en histoire porte sur un homme et qui s'appelle Don Augustin de l'Étrange. Est-ce que ce personnage a été aussi un facteur déclenchant dans votre vocation dominicaine?
Alors, je dis oui, mais avec un peu de crainte, parce qu'il a un aspect de fou furieux qui peut être légèrement inquiétant. Ce Don Augustin de l'Étrange, c'est le moine qui a été le trait d'union entre la vie religieuse sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, et la vie religieuse au 19e, 20e siècle. Alors, ce Don Augustin de l'Étrange est une personnalité extraordinaire. Il était moine à La Trappe, dans le Perche, à la fin de l'Ancien Régime. Et lui a vu dans la Révolution l'occasion d'aller plus loin dans sa vie religieuse. C'est pas du tout un homme qui s'est préoccupé de problèmes politiques. Sa question était uniquement religieuse. Il dit « je veux continuer et je veux même profiter de cette situation de grande désorganisation pour porter à son achèvement la réforme qu'avait commencé dans cette abbaye fameuse, l'abbaye de Rancé, donc un siècle plus tôt. Et alors il va se livrer donc à ce travail avec une énergie farouche qui va le conduire à mener sa vie monastique, normalement liée à un vœu de stabilité, entre le Dniepr, le Mississippi, la Baltique et les Antilles. C'est ça, le champ de sa vie. Donc un territoire immense. Alors il va fonder des monastères, certains vont s'écrouler, parfois ça va marcher. Donc il meurt en 1827 en laissant près de 1000 moines et moniales, plus beaucoup d'autres qui ont trouvé force et soutien en lui.
Et ça vous fait rêver ça, frère Augustin Lafay?
Oui, ça m'a fait rêver. Cette vie fait rêver, ce dynamisme fait rêver.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à l'adresse Radio Vatican en français. On se retrouve demain, où que vous soyez.